Désir d'architecte sur Bâti Radio.
Bâti Radio, la voix du bâtiment.
Bonjour, 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 bienvenue dans Désir d'architecte. Quel plaisir de désirer. Ce mot est joli, je me disais, tiens, en l'écoutant, ça évoque tellement de choses. Désirer, bavarder. Est-ce que, dans la même logique, le mot re ne deviendrait pas une forme philosophique d'imaginer l'avenir de notre monde? Est-ce que ce re, dès lors qu'il est suivi d'un trait d'union, ne pourrait pas convoquer dans notre manière de réfléchir une forme innovante? Réinventer, réapproprier, replacer, réemploi. C'est la conversation que nous allons avoir aujourd'hui avec trois femmes. Guillaume Loiseau, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
Vous êtes bien entouré aujourd'hui, hein?
Ah oui.
Avec trois femmes qui ont une idée, allez, on va dire un mot facile à comprendre, génial. Parce que dans génial, il y a cette capacité à se dire, il fallait avoir l'idée et elle est géniale. Ces trois femmes, c'est une association à elles trois, Faire Avec. Elles sont avec nous aujourd'hui. Clotilde Buisson, bonjour.
Bonjour.
Gwenaëlle Rivière, bonjour.
Bonjour.
Clara Piolato, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous trois. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Vianney, bonjour, je ne vous oublie pas, bien sûr. Alors, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui parce qu'on vous a repéré il y a à peu près 6 mois. Et avec Guillaume, quand on a eu l'idée de cette émission, de convoquer et d'avoir ce désir de bavarder avec des architectes de façon libre et libérée, on n'imaginait pas qu'on aurait la chance de vous rencontrer toutes les trois. Alors, pourquoi on a la chance de vous rencontrer? Pourquoi ce que vous faites est génial? Je pense que je vais vous laisser nous le raconter pour qu'on comprenne tout de suite. Faire Avec, c'est quoi?
Alors, Faire
Clara.
Avec... Merci. Faire Avec, c'est un collectif d'architecture qui est né en août dernier, 2018.
C'était hier?
C'était hier. Ça faisait quand même un peu plus d'une année qu'on y pensait.
Ouais.
On s'était retrouvés donc, dans des bureaux qu'on partageait de manière plutôt seule.
Ouais.
Et en fait, on voulait sortir de ce travail solitaire et monter quelque chose de collectif.
Ouais.
Et donc, on s'est réunis pour un premier appel qui était Faire Paris.
Ouais.
Le pavillon de l'Arsenal.
Ouais.
Et puis on avait proposé un projet.
Ouais.
Il n'a pas été retenu, mais en revanche, l'envie de travailler ensemble était bien là.
Ouais.
Donc on a poursuivi, on a rencontré plusieurs acteurs pour approfondir le projet.
Ouais.
Et puis voilà, on a lancé l'association et maintenant on aimerait vraiment monter en puissance dans le travail collaboratif.
Ouais.
Et puis que la démarche de Faire Avec puisse prendre à plus grande échelle.
Alors, Faire Avec, c'est collaboratif, vous l'avez dit, c'est important, c'est un mot qui reviendra souvent et c'est un mot qu'on entend beaucoup ici. On avait Nicolas Lenné, très récemment, qui disait exactement la même chose. Aujourd'hui, on va être ensemble pour faire des choses, parce que sinon, on va avoir du mal à sortir tous les projets. Mais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est? Déjà, vous êtes toutes les trois architectes?
On est toutes les trois architectes. Enfin, moi, je suis en formation cette année.
Ouais. Gwenaëlle, vous êtes architecte?
Je suis architecte, oui.
Ouais. Et Clara aussi.
Clotilde, du coup.
Clotilde, voilà, c'est dans l'autre sens. Clotilde aussi. Donc, vous êtes toutes les trois architectes, vous avez envie de travailler ensemble sur un projet collaboratif. C'est quoi ce projet Faire Avec? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Faire Avec, c'est né de deux constats. En fait, je pense que c'est des questions sur lesquelles on est toutes sensibilisées, mais Clotilde et Clara le sont sur les deux extrêmes, je vais vous expliquer. En tout cas, pour nous, il y a eu deux constats réels qui sont visibles. C'est d'un côté une crise de logement avec, selon les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre, environ 4 millions de personnes qui sont en situation de vulnérabilité liée au mal logement. Et environ 12 millions de personnes qui, de toute façon, sont touchées par la question du mal logement. Et de l'autre côté, donc du coup, ce sont des gens qui sont aussi sujets à des besoins en travaux d'amélioration. Et de l'autre côté, on a des ressources qui baissent de toute façon et une quantité de déchets issus du BTP énorme. Voilà.
Ouais. J'ai lu 232 déchets par an. 230 tonnes de déchets par an, c'est
ça? Ça, c'est tout le milieu du BTP confondu. Et nous, on est sur le bâtiment. Et nous, c'est 40 millions de tonnes sur le bâtiment. Voilà. Et dans ces 40 millions, évidemment, on a beaucoup de déchets qui sont des déchets issus du surplus et du rebut de chantier ou du déstockage. Et c'est ce que nous, on se propose en tout cas de récupérer. Via des plateformes, on ne récupère pas personnellement, hein. On travaille aussi avec d'autres acteurs. Mmh. Et l'idée, c'est de mettre en relation et en lien ces récupérations de déchets plutôt neufs au départ, même si on n'exclut pas le réemploi, à destination de travaux d'amélioration de l'habitat.
En fait, un jour vous vous réunissez dans un projet commun, vous avez envie de travailler ensemble, vous réfléchissez au sens de ce travail, comment vous voulez travailler, et là vous constatez ce que tout le monde a déjà constaté, hein, Guillaume Lazo, je crois que c'est une des conversations qu'on a eues le plus souvent dans un événement comme le vôtre, vous constatez qu'à la fois il y a un mal logement et donc une incapacité presque à construire des logements neufs et les réhabiliter c'est très compliqué ou les réutiliser, et puis au fond vous dites en face, il y a des millions de tonnes de déchets et on n'arrive pas à réunir ces deux mondes. C'est ça votre logique ?
C'est de faire avec ces matériaux qui sont inexploités aujourd'hui, oui. Et puis surtout de faire avec les habitants qui en ont besoin et qui sont dans des besoins qui sont inassouvis.
Donc, ouais. C'est important ça pour vous, hein, Clotilde, Clara, Gwenaëlle, de remettre l'humain au cœur de cette préoccupation, l'usager.
Oui.
C'est essentiel.
Dans cette démarche de la permanence architecturale, notamment, qui est en essor dans la pratique de l'architecture.
Qu'est-ce que ça veut dire, la permanence architecturale ?
Alors, la permanence architecturale, y a par exemple Sophie Ricard qui le fait très bien à l'hôtel Pasteur à Rennes. Et donc, c'est toute cette pratique au plus proche des premiers concernés, en disant on s'installe sur le site, on reste auprès des habitants pour collecter les besoins, les envies, les désirs, comme vous le dites. Et du coup, on fait le projet le plus ensemble.
Est-ce que c'est une forme moderne et innovante d'imaginer l'architecture ? Est-ce que vous ne faites pas tomber du piédestal un peu l'architecte égomaniaque qui disait « je construis un bâtiment, c'est mon bâtiment », ça vous fait sourire. Est-ce que vous n'êtes pas en train de déconstruire un peu tout ça par votre, cette façon innovante de parler de l'architecture ? Clotilde, on ne vous a pas encore entendu.
D'une manière ou d'une autre, oui, même si je pense qu'on n'est pas des précurseurs en la matière, mais c'est effectivement dans des projets, là je pense notamment au projet dont on vient de finir l'étude de faisabilité pour Emmaüs, c'est vrai que la complexité, c'est quand on travaille pour un bâtiment comme un foyer d'hébergement, il y a un peu trois strates. On a à la fois les habitants qui finalement sont ceux qui vont vivre dedans. On a
passé en plus, ils vont pas forcément que vivre, ils vont aussi des sessions de passage. C'est encore une autre complexité, j'imagine.
Mais comme beaucoup d'entre nous dans nos logements.
Oui, c'est ça. Ah, c'est bien de le dire.
Ouais, c'est que finalement, je pense que parfois ils restent plus longtemps que nous dans nos logements.
On a fait le calcul.
Ouais.
Ah ouais.
Et ensuite, il y a les décideurs du projet qui vont être Emmaüs Solidarité, qui sont le bailleur, et les financeurs ensuite qui sont ceux qui payent et qui sont encore une autre
autre approche.
C'est vrai que nous, à un moment, il faut réussir à concilier toutes les envies, les besoins, les contraintes, que ce soit normatives, etc. Donc donc nous c'est vrai qu'appuyer l'habitant, c'est une manière aussi de se réintégrer dans le plan quinquennal pour le logement d'abord, c'est-à-dire essayer de s'éloigner de l'hébergement et d'aller plus vers le logement aussi.
C'est joli, hein ? Oh là là ! Je vous avais dit que ça allait être génial. Alors Guillaume, une première impression avant qu'on écoute Vianney qui est allé voir dans la rue ce qu'on pensait les Français de cette idée de réutiliser.
Dans la série des mots en re ou ré, il y avait réjouir. Ouais. Qui, moi, me venait en fait, parce que je suis assez impressionné en fait par la cause que vous défendez. Malheureusement, c'est pas un standard encore. C'est une grande cause au sens noble du terme. Et je veux dire par là que vous êtes malheureusement trop peu nombreux à la porter. Mais l'ambition, c'est que ça fasse des petits. C'est vraiment impressionnant parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus difficile, ce que vous essayez de faire. C'est facile de jeter.
Oui.
Non, c'est banal ce que je viens de dire, mais...
Non, c'est tellement vrai.
Et finalement...
De consommer, en fait, au fond, jeter,
oui,
continuer à consommer.
De consommer, et en fait, on sait tous qu'au-delà des problématiques de précarité qui sont les plus critiques et qui sont malheureusement en masse à coups de millions de personnes et de foyers présentes autour de nous, le coût du logement, le coût d'accès en location ou en propriété à un toit confortable, agréable, là je parle pas de luxure du tout, est bien trop élevé en fait par rapport à la moyenne des gens. Et donc le sujet, c'est comment on travaille sur la chaîne de valeur de l'amont à l'aval, et puis quand on repart dans l'autre sens en réemploi ou en circularité, comment on travaille sur toutes les poches de valeur pour essayer de réduire le coût global du mètre carré d'habitation. Et c'est une belle cause parce que aujourd'hui, avec les business models d'avant, anciens, tout est contre vous. C'est pas forcément vu au premier abord comme un avantage industriel de réemployer, sauf à avoir des dirigeants qui sont pleinement dans cette philosophie et qui organisent en fait leur entreprise, leur capacité de production et leur marketing de cette façon-là. Il y a toute la problématique de la distribution, il y a toute la problématique de la certification des normes et de l'assurabilité des ouvrages et des bâtiments qui sont livrés. Enfin, ça prend en travers tous les procédés anciens de faire les bâtiments. Et il n'y a pas un sujet que ça ne challenge pas. C'est aussi difficile qu'impressionnant. Moi je pense que, enfin, il n'y a pas de débat en fait. On pourra en parler une heure, mais il n'y a pas vraiment de question sur le fait que ce soit l'avenir. Enfin, moi, je le vois pas comme une question. C'est relativement une évidence. C'est surtout un problème de complexité. Voilà. Et tant qu'on aborde le sujet par la contrainte, en fait, les objections de pas faire, il y en a des listes de 100. Toutes les 5 minutes, hein, des difficultés pour faire ce genre de choses, c'est une évidence pour tout le monde. Par contre, dès qu'on rentre dans l'humain, dans l'impact social ou sociétal, je parle même pas de l'impact carbone, qui est, lui aussi est une évidence sur le sujet, là ça prend une autre dimension. Donc ce que vous dites, cette notion de permanence architecturale, qui est un mot que je connais, enfin une expression que je connaissais pas,
ouais, c'est joli.
En tout cas est au plus proche au cœur et descendre du piédestal, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, au plus proche des habitants, bah, c'est la meilleure façon de toucher tout le monde et de changer la masse en fait, des chantiers et de ces problématiques. Donc
c'est beau
ce que vous faites.
Ouais, ce que je vous avais dit, le mot est génial, c'est parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots pour dire ça. Avant de comprendre comment vous réemployez ces matériaux, justement, on va poser la question, Vianney plus exactement. Ça va, Vianney ?
Très bien, et vous ?
Je vous sens très à l'écoute. Qu'est-ce que vous avez posé comme question aux Français dans la rue ? Parce que Vianney, il va dans la rue, il écoute les gens, justement, ce que vous faites aussi, mais nous, on les écoute différemment, on leur pose des questions ou une question. Alors, c'est vrai qu'on dirige un peu la question. Qu'est-ce que vous leur avez posé comme question aujourd'hui ? C'était pas évident, en fait, de trouver vraiment le fil.
Guillaume a justement parlé de complexité juste avant. Moi, j'ai voulu mettre un peu de simplicité. Donc, je suis allé voir les Français et je leur ai donné, avec mon micro, une baguette magique. Et je leur ai demandé s'ils avaient le pouvoir de transformer quelque chose dans leur habitat. Qu'est-ce qui pourrait changer ?
On les écoute.
Plein de choses à changer. J'aurais bien voulu un grand salon, une grande cuisine, tout.
Je mettrais des Velux à des endroits où qui sont un peu sombres de la maison.
Au niveau du bâtiment, de là où j'habite, je l'agrandirais. Ouais, je le transformerais en loft.
L'acoustique, peut-être.
Tout est neuf dedans, donc... il était en un triste état, parce qu'on a refait depuis les planchers, bien sûr la peinture, et puis le chauffage, la plomberie, l'électricité, tout. Parce que c'était vraiment pas aux normes du tout. Voilà, maintenant, j'arrête, là.
Je l'agrandirai. Ou je le diviserai en deux, parce que j'ai un grand studio et j'aimerais bien avoir deux pièces.
La salle de bain.
Je mettrai une pièce de plus.
L'environnement des cours, plus de boîtes, plus de verdure.
Les fenêtres, parce qu'elles sont vieilles, c'est au sixième étage, il faudrait changer des petites fenêtres. Voilà.
Les murs, je mettrais des grandes fenêtres.
Quelque chose de plus écolo, je suis avec une chaudière fuel, et peut-être un échange air-air ou quelque chose comme ça.
Tout le bâtiment, en fait.
De grandes baies vitrées, plus de lumière, oui, surtout plus de lumière.
Voilà, les Français ont tous plus ou moins envie de la même chose, hein, d'espace. Ça vous sidère ? Non, donc vous imaginez bien que c'était ça. Hein.
L'espace et la lumière, ouais, c'est
ouais. Classique. Espace, lumière, c'est vrai que c'est classique. Alors comment ? Merci beaucoup, Vianney. C'était intéressant de voir avec cette baguette magique comment les gens tout d'un coup...
J'adore, parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils sont tous un peu rêveurs, ils sont tous un peu architectes, en fait.
Mais c'est bien ce qu'on se dit là depuis tout à l'heure. C'est bien que donc des architectes parlent à des architectes de leur propre intérieur. Comment ça se passe ? Quelle est la démarche justement du remploi des matériaux ? Comment qu'on comprenne ? Parce que forcément c'est votre jargon, votre métier, votre vie de tous les jours. Mais comment ça se passe ? Par exemple, là vous travaillez sur Emmaüs, vous allez pouvoir faire du réemploi ? Le matériau ?
Sur Emmaüs, c'est un projet qui va se faire sur le long terme. Et pour le moment, on a fini notre mission, donc on verra. Mais en revanche, pour enfin, on est justement à la construction des outils en ce moment. Juste pour revenir un peu sur ce que vous disiez aussi, sur ce qu'on fait est génial, peut-être, mais on n'est pas les premiers, au contraire.
Oui, oui, en fait, on sait. Hein,
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut commencer à avoir des outils, c'est qu'on on est dans la lignée de nombreux architectes et de non-architectes aussi qui ont travaillé sur le sujet. Et aujourd'hui, on s'appuie sur des acteurs qui, justement, ne sont pas architectes et qui sont plutôt entrepreneurs et qui commencent à structurer la filière du réemploi depuis plusieurs années. Donc, ce sont des plateformes, par exemple, d'échange sur Internet de matériaux qui peuvent être... on a plusieurs sources qui peuvent être soit des matériaux neufs, comme on l'a expliqué, qui seraient soit des rebuts, des surplus de fournisseurs, des changements de méthode sur un chantier. En fait, on a des annonces qui viennent et nous, en fonction, on fait nos recherches. Et là, comme c'est un peu ça va être des projets phares sur les... des projets, on va dire plutôt tests pour nous sur les prochains mois, c'est travailler en collaboration avec ces différentes plateformes. Donc on a CycleUp qui travaille sur la notion de réemploi et qui, eux, utilisent par exemple le stockage des chantiers eux-mêmes pour créer un espace tampon où on a quelques mois pour venir récupérer les matériaux, quelques semaines. Il y a StockPro qui va bientôt sortir, qui eux sont plutôt sur les matériaux neufs que les entreprises, les entrepreneurs n'ont pas posé, donc c'est plutôt les surplus de chantier. Et en fait, avec tous ces acteurs-là, on essaye de... Ben, nous, on donne du débouché à une filière, en quelque sorte, pour faire en sorte qu'elle aboutisse, tout simplement.
Ouais. Oui, allez-y, je vous écoute.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment l'enjeu de rendre plus performant ce système de plateforme et de créer un échange entre les architectes et ces entrepreneurs pour aider à améliorer la plateforme. Donc, par exemple, en qualité de référencement, de quoi ont besoin les architectes, de quelles informations on a besoin pour aller récupérer les matériaux. Et puis, après, de quels services on pourrait profiter, qui pourraient inciter les architectes à se diriger vers ces plateformes.
C'est ça votre innovation, en fait, aussi. C'est ça votre perception des choses. C'est ça qui change, non ? C'est ce que vous apportez, c'est votre petite différence. C'est-à-dire que vous rendez les choses réalistes possibles. Est-ce que vous êtes les garants, les garantes même, de ce modèle ? Parce que ce sont les maîtres d'œuvre qui doivent, à un moment donné, aussi dire de quoi ils ont besoin. Ce que vous venez de dire, référencer les produits, leur donner un classement. Enfin, c'est vous qui devez donner un peu le tempo.
C'est tout l'enjeu des préconisations des architectes.
Ouais.
Je pense qu'on est garants, nous trois peut-être, mais je pense tous les architectes en général. C'est vrai que si on est venu aussi prendre la parole aujourd'hui, c'est pour essayer d'inciter d'autres architectes à nous suivre, d'essayer de faire en sorte que l'objectif, c'est qu'un jour, on ne parle plus de réemploi et que ce soit juste un outil qui fasse partie du quotidien.
Un processus.
Qu'on n'en parle plus.
Alors, imaginez que quelqu'un comprenne pas ce que ça veut dire réemployer des matériaux pour donc plutôt rénover ou construire. On peut construire aussi avec des matériaux qu'on réemploie. C'est possible, le bâti, le construire.
Oui, bien sûr. On peut. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte là après nos plusieurs mois, voire années aussi de recherche que on pourrait construire plusieurs bâtiments avec ce qui se jette. Du coup, je voudrais peut-être revenir sur la définition d'un déchet, parce que ça peut être assez mal vu aussi de construire avec du déchet pour les pauvres. Ça peut être assez stigmatisant si on le formule de cette manière.
Pourquoi les mots ont un sens ?
Exactement. Et le déchet, c'est quelque chose dont on a vocation à se débarrasser. Donc, c'est-à-dire que si à partir du moment où on vient le récupérer avant qu'il soit un déchet, eh ben, c'en est plus un, vu qu'on n'a plus vocation à s'en débarrasser. Donc on se place au niveau de la prévention, c'est-à-dire, en fait, c'est même plus du déchet. Et c'est vrai que c'est l'avantage des matériaux neufs qu'on peut récupérer aussi, c'est que tous les freins législatifs dont vous parliez, d'assurabilité des bâtiments, on s'en extrait aussi.
Guillaume Loiseau, parce que c'est vrai qu'on a une petite conversation avant de rentrer dans le studio, alors ces conversations sont toujours passionnantes.
Oui, effectivement, quand il s'agit de fin de stock, en tout cas de surplus, ce sont des produits neufs. C'est simplement une quantité dont quelqu'un n'avait pas besoin, qui était en excès par rapport à une unité de consommation. Donc le problème est plus simple. En fait, ce qui pourrait peut-être changer la façon de percevoir le sujet ou faire décoller ce marché ou exploser ce type de pratique comme la vôtre, c'est qu'on parle de, prenons par exemple le cas de fenêtres qui sont réemployées, qu'on parle de ces produits en fait comme de produits neufs qui sont issus de filières de fabrication, mais avec des caractéristiques qui sont nouvelles. Voilà. En fait, nous-mêmes, dans le langage, dès qu'on parle de choses qui sont récupérées, qui sont par définition anciennes, puisqu'elles ont eu un premier usage et qu'on en trouve un deuxième, c'est tout de suite un peu péjoratif. Et en fait, là, on a la somme des objections et des contraintes qui arrivent. Mais envisageons demain cette fenêtre qui est issue d'une filière de réemploi, parce que je ne sais pas comment la nommer aujourd'hui, il faudrait peut-être inventer des nouveaux mots, mais et je la compare à une fenêtre toute neuve issue d'une chaîne de fabrication, et bien si on donne à cette fenêtre issue d'une filière de réemploi deux caractéristiques supplémentaires que n'ont pas la fenêtre neuve et qu'on est capable de qualifier en fait, hein, et de quantifier, c'est-à-dire comme des performances thermiques, acoustiques ou autres, avec un indicateur sociétal, puisqu'on est dans du réemploi, donc ça fait bien quelque chose sur la société. Et puis un indicateur carbone en plus, ça fait deux caractéristiques de ce produit-là qui la différencie positivement, avantageusement, par rapport à la filière issue à la fenêtre issue de la filière classique. Et en fait, quand on regardera ces deux fenêtres et qu'on se posera la question de laquelle choisir, indépendamment de leur coût, qui peut être aussi un sujet, c'est plus du tout la même façon d'approcher le problème, et du coup ça donnera peut-être envie à des maîtres d'ouvrage de construire de cette façon-là avec des collectifs comme Faire Avec ou tous les gens que vous allez réussir à rallier à votre cause, parce que ça procurera un avantage, comme quand on consomme un aliment qui est plus bio ou plus vertueux ou même un vêtement. Je veux dire, c'est des choses, il y a 15 ans ça paraissait complètement la science-fiction et voir des choses louches pour certains. Non mais c'est vrai. Aujourd'hui, c'est plus un phénomène qui se passe dans deux quartiers du 11e à Paris. Vous allez en province, dans zone rurale, il y a même des nouveaux modèles économiques qui sont inventés, des nouvelles formes de distribution, au point que ça a fait bouger ceux qui étaient indéboulonnables, qui sont les grands acteurs de la grande distribution. Voilà, alors avec des démarches plus ou moins concrètes et sérieuses. Mais donc on peut changer le marché.
On peut changer le monde même.
Et quand on change les marchés, souvent ça touche un peu la face du monde. Ouais. Les faces du monde. Mais donc c'est possible, on a des exemples sous les yeux. Alors ça a pris du temps. Mais donc c'est pour ça qu'à mon sens, une des façons de faire progresser le sujet, il faut des grands ambassadeurs et des ambassadrices. Et aussi après, si on veut faire décoller le sujet, il faut s'attacher en fait aux modèles économiques. Voilà. Donc comment donner un avantage et donc une préférence aux produits que vous développez issus de ces filières par rapport aux solutions classiques.
Voilà. C'est ça tout l'objectif. Ouais. Quand, dans la continuité de ce que vous disiez, Guillaume, aujourd'hui, on le voit, hein, il y a un circuit aussi même des vêtements. Mmh. On ne va pas les jeter, on va les revendre. Et donc la personne qui va acheter des vêtements va pouvoir continuer à faire circuler ses vêtements, puisque c'est une des choses qui pollue le plus dans le monde, les vêtements, avec le bâtiment justement. Il y avait aussi cette logique qui est tellement, je trouve, triste. On ne peut pas donner des choses qui sont périmées, enfin pas périmées, qui n'ont pas été vendues dans un magasin alimentaire. Il y a des associations aujourd'hui qui récupèrent tous ces aliments et qui les remettent dans un circuit très peu cher. Vous êtes dans cette même logique, en fait. Ce monde, aujourd'hui, il a un véritable Big Bang, en fait. Hein, et c'est-à-dire qu'on le réécrit. Qu'est-ce qui vous ferait vous désespérer ?
J'aimerais rien. Juste revenir sur
ce que disait Guillaume, pardon.
Oui. Parce que c'était intéressant de donner éventuellement des nouvelles caractéristiques à ces produits qu'on va réemployer en énonçant une caractéristique sociétale ou voilà, par exemple. C'est que, en effet, ce qui se passe aussi en réutilisant ces matériaux neufs, il faut bien comprendre qu'il y a les matériaux qu'on utilise, donc les distributeurs, nous qui essayons de les mettre en œuvre, mais il y a aussi ceux qui les mettent en œuvre réellement, sont les entreprises et les artisans, qui sont acteurs évidemment de ces travaux qu'on réalise. Et aujourd'hui, ce sont eux-mêmes les artisans et les entreprises qui fournissent les matériaux et qui font une marge dessus. Si nous, on devient fournisseur de matériaux à moindre coût, voire sous forme de dons, parce que c'est aussi une des issues qu'on a, eux font moins de marge parce que fournissent moins de matériaux. Donc l'idée, c'est pas évidemment de mettre à mal aussi leur système, leur système économique,
leur business model,
merci, c'est justement de valoriser leurs compétences et leur savoir-faire. Donc de réinjecter en fait cette marge qu'ils ne font plus dans leur dans la valorisation, dans leur activité, voilà, dans le coût de la mise en œuvre. Donc c'est aussi les intégrer évidemment à tout ce processus, ce parce qu'il faut qu'ils soient sensibilisés à ça, bien sûr.
Vous avez raison de développer ce point-là, et en fait, ça pourrait pour eux-mêmes être vu comme une bonne nouvelle, alors à condition de faire toute la pédagogie et de bien avoir le temps d'expliquer ce que vous venez de développer. Parce que les artisans du bâtiment se plaignent à juste titre, souvent, en tout cas ils en parlent souvent, de dire on gagne très peu d'argent en fait sur le fruit de notre savoir-faire, c'est-à-dire le geste. La main d'œuvre et les équipes. Dans beaucoup de lots en fait techniques du bâtiment, on sait très bien que 2/3 des coûts en fait complets de la tâche de mise en œuvre sont liés au coût des matériaux et donc aux marges de toute la chaîne de distribution et de transformation. Si on arrive à prendre 10% de la valeur qui était dans des matériaux issus d'une filière d'anciens modèles. Pour transférer ces 10, je ne parle même pas de l'augmenter, ce qui est peut-être aussi possible, mais les transférer en fait dans ce qui est issu du savoir-faire, c'est-à-dire de la valeur produite par l'artisan lui-même, ça peut être très valorisant. Et en fait, ce que vous dites, et enfin, je partage la même conviction que vous, c'est-à-dire à chaque fois qu'on attaque le sujet par le petit bout de la lorgnette, ça ne peut jamais changer. Parce que cet artisan, il n'a pas envie de se faire disqualifier sur un sentier parce que ses coûts vont exploser, ni de fermer sa boîte au bout d'un an parce qu'il aura fait des trucs vachement bien pour l'environnement, mais parce qu'il fera plus de marge sur ses matériaux, et en plus la marge de ses entreprises, enfin, elle est extrêmement faible, hein. C'est pas des marges à deux chiffres, hein. C'est entre 0 et 5% pour les plus méritants d'entre eux. Voilà, donc le passage de la zone verte à la zone rouge, il est assez rapidement franchi quand l'économie d'un chantier n'est pas bien maîtrisée. Donc c'est extrêmement sensible pour eux. Il y a toutes les problématiques de gestion du cash flow, etc. aussi qui sont importantes. Donc, il faut pousser le marché, il faut emmener les installateurs et les filières de mise en œuvre, et il faut surtout attaquer la maîtrise d'ouvrage et ceux qui demandent, en fait, qui commandent les bâtiments. Alors, quand on s'adresse aux plus éclairés d'entre eux, type Emmaüs ou d'autres, c'est probablement plus facile de convaincre, et tant mieux. Mais pourquoi l'État, en fait, ne développerait pas des démarches exemplaires, anecdotiques, embryonnaires dans un premier temps, mais on s'en fiche. Il y a bien des mesures qui favorisent l'emploi du bois dans la construction, où on recommande d'avoir au moins 20% de bois. Ben pourquoi on ne crée pas des mesures incitatives, pas contraignantes et réglementaires dans un premier temps, mais en tout cas pour montrer le mouvement et initier des choses, qui favorisent les maîtres d'ouvrage et les bâtiments qui sont produits selon tel et tel critère. Il suffit d'en discuter et puis de le décider. Parce que tant qu'on ne touche pas la demande, c'est très difficile d'embarquer tout le reste.
Juste sur un petit point positif, c'est vrai que les bailleurs sociaux aujourd'hui se réveillent quand même. Il y a eu c'est Paris Habitat qui a fait une expérimentation avec la caserne de Reuilly et qui sont assez moteurs là-dessus aujourd'hui. Donc c'est pour ça aussi que quand vous nous demandiez... Pardon, si on désespérait, c'est plutôt le moment d'espérer en ce moment.
Oui, puis là, vous venez de recevoir un joli prix. Vous avez été récompensé par le concours de la Fondation Cognadjé qui récompense l'innovation au service de l'intérêt général. Ça donne des ailes, ça, quand même, non ? Ça donne... Non ? Ça nous fait sourire ?
Ah oui ? Ah non, c'est génial. Après, le mot récompensé, c'est plus qu'ils nous soutiennent pour nous lancer, plutôt qu'ils nous récompensent pour ce qu'on a réalisé. Parce qu'aujourd'hui, on est en phase de lancement, mais heureusement qu'ils sont là. Enfin, qu'ils ont été là.
On a envie et besoin de faire, là, aujourd'hui. Ouais. La démarche, elle est là. Ouais. Mais il faut vraiment qu'on soit dedans.
Vous avez envie, hein. Vous avez envie de mettre les mains dans le chantier, etc. Je posais une question juste avant, parce que moi, c'est toujours cette logique de me dire, mais quand on est, même si vous n'êtes pas précurseur, vous êtes quand même aujourd'hui... ça s'est tourné vers vous, quoi. D'ailleurs, on vous reçoit aujourd'hui, on a envie de vous écouter, parce que vous êtes jeune, vous êtes les bâtisseurs de demain. Qu'est-ce qui vous ferait vous désespérer, justement, que cette filière ne s'organise pas de façon industrielle, que chacun n'arrive pas à écouter le même discours, que chacun reste, comme le disait Guillaume tout à l'heure, sur un petit bout de la lorgnette et pas sur le tout, ou à l'inverse, qu'est-ce qui vous donne l'espoir ? Enfin, première question, qu'est-ce qui vous ferait vous désespérer ?
Moi, c'est que l'État suit, ce serait que... Enfin, aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup, soit de collectifs, soit d'associations, soit même des entreprises qui réfléchissent à...
Individuellement, quoi.
Individuellement, dans c'est dans un but collectif, mais il faudrait que, comme vous disiez tout à l'heure... qu'il y ait des volontés politiques derrière qui suivent, qu'il y ait, il faut que d'une manière ou d'une autre, les solutions soient réfléchies et trouvées ou financées par des volontés publiques et qu'on ne peut pas toujours s'appuyer sur des entreprises individuelles pour faire évoluer les choses.
La volonté, oui, allez, pardon, je vous ai
mais après, on désespère pas parce que justement, on passe aussi du temps là dans cette phase de lancement à sensibiliser les futurs professionnels pour essaimer. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps, c'est ça qui pourrait être désespérant, mais bon, l'architecture n'est pas née hier non plus.
Oui, donc, c'est voilà, le propre de l'architecture.
On est un chaînon, on transmet, et puis si c'est pas de notre vivant, ça sera pour la prochaine génération. Enfin, c'est pas grave.
Oui, j'aime bien l'idée de la volonté politique parce que je pense que tout passe par là aujourd'hui quand même. Et en politique, si vous lui solutionnez toutes les cases dont parlait Guillaume tout à l'heure, entre l'artisan, le bailleur, l'habitant, tous les chaînons en fait, parce que ça reste un métier d'artisanat de construire. Hein. On est là encore dans la réflexion, dans l'artisanat. J'ai l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a le monde encore celui-là, puis il y a le monde d'un bâtiment qui se construit en Asie où on ne se pose pas de questions, on ne sait même pas combien il y aura d'étages et les déchets, on s'en fout. Mais nous, on se pose encore beaucoup ces questions-là. C'est plutôt bien. Mais ça reste complexe. Il faut rendre la vie du politique simple. Parce qu'elle est complexe aussi sur le terrain. Non ? Ça vous fait sourire, mais je crois que c'est un vrai sujet, ça.
En fait, il faut être le plus transparent possible à chaque fois, expliquer la démarche, prendre encore une fois le temps vraiment de dire les choses, d'expliquer comment ça se passe. C'est ce qu'on fait au cours des permanences architecturales, justement, pour faire comprendre pourquoi le projet bloque, pourquoi ça prend du temps, où sont les documents, pourquoi on doit attendre 2 mois, 3 mois sans rien faire concrètement. Et tout de suite, le message passe mieux aussi. C'est une fois qu'on comprend...
Comme toujours, j'ai envie de dire. Comme toujours dans la vie, non, Guillaume? Je trouve que c'est la volonté politique, c'est un élément essentiel. En fait, il faut les mettre en relation avec des hommes politiques.
Oui, ce qui donne de l'espoir, probablement, enfin, ce qui fait que ça peut peut-être changer plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelques années, c'est que cette posture que vous avez choisie très proche des habitants, donc le fait d'être au cœur, de toucher les gens, de leur expliquer, parce qu'en fait, quand on prend le temps... à la portée des gens, il y a quelque chose qui marche depuis toujours, c'est qu'on crée de l'appropriation et les gens comprennent parce que les gens sont intelligents, on ne peut pas parler qu'aux experts, les autres peuvent comprendre aussi et c'est ce que vous faites au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que tout ce qui touche un peu plus la société et qui vient un peu plus de la base par les temps qui courent interpelle au moins et rend sensible les acteurs politiques. Voilà, et donc moi, je peux vous encourager à attaquer la falaise par ce côté-là, parce que ça marche et c'est ce qui fera changer les choses le plus en profondeur. Si ça reste l'apanage de 2-3 sachants sur un nombre très limité de bâtiments, c'est beau, mais je pense pas que c'est ce dont vous ayez envie et vous avez raison. Voilà.
Et puis alors, en France, il y a quand même beaucoup de choses à faire et à mettre en place. C'est la fin de 10 heures d'architecte, c'est vu ? Alors justement, je vous ai vu Clotilde le dire, ah mince, c'est déjà fini. Est-ce que je vous laisse du temps pour conclure toutes les trois, si vous aviez un message à faire passer ? Je pense que vous étiez là, vous avez des micros, vous l'avez dit, vous avez besoin qu'il y ait un consensus, qu'il y ait autour de vous plusieurs initiatives, que vous puissiez mettre les initiatives en miroir les unes des autres. Mais un petit mot chacune pour conclure ce moment très agréable avec vous. Clotilde.
On a parlé du désespoir potentiel, on peut parler de l'espoir aussi, de l'évolution des pratiques, sur l'évolution aussi de la perception, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de do-it-yourself, de gens qui font, récupèrent et qui font des choses chez eux, et donc c'est vrai que c'est assez anecdotique, et nous encore une fois le but c'est ce constat c'est que les gens sont prêts. Et l'objectif, c'est de professionnaliser encore une fois cette démarche pour que les pratiques évoluent dans le secteur du bâtiment dans un sens
positif. Gwenaël.
Non, moi je suis pour en effet le faire ensemble, la professionnalisation de la démarche. Et je vais paraphraser Clotilde parce que j'ai pas de conclusion majeure en plus de celle qu'elle a apportée, mais. En tout cas, on est à l'aube de notre démarche et nous, on a vraiment envie et besoin de la mettre en application. Donc, on est demandeuse de, d'y aller avec, projets avec tout, soit avec des projets, bien sûr.
Clara. Et pour ce faire, du coup, on essaye de penser à un événement qui se voudra collaboratif, d'organiser une journée de travail ensemble avec les différents acteurs qu'on n'a pas encore complètement identifiés. Du coup, ce serait une occasion justement de se mettre tous autour de la table, tous ensemble. Et pour aujourd'hui, rien n'est calé, donc on ne peut pas vous l'annoncer. Mais on vous invite à venir sur le site internet, faireavec.org, assez régulièrement pour l'annonce.
Et être tenu informé.
Ouais. Et puis en plus, sur le site internet, il y a un onglet participer sur lequel vous pouvez retrouver toutes les plateformes, justement, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure.
Formidable. Merci beaucoup à toutes les trois.
Merci à vous de nous avoir invités.
À faire avec donc, cette belle association. Guillaume, un petit mot pour terminer.
Bah moi, je vous invite à le faire à Batimat, si vous voulez. Alors, en plus d'autres occasions, parce que j'imagine que vous avez envie de faire plusieurs événements, mais en tout cas, je serais ravi de vous accueillir avec toute mon équipe et je vous mettrai à disposition toutes les conditions pour faire cet événement ou une partie de cet événement, en fonction de vos souhaits. Voilà.
Avec plaisir.
Je crois qu'il n'y a pas meilleur endroit pour le faire.
Ça peut être pas mal.
Merci beaucoup. Merci, Vianney. Merci à tous. Désir d'architecte, on se retrouve très, très vite. Belle journée.
Désir d'architecte sur Bâti Radio.
Bâti Radio, la voix du bâtiment.